Il y a un doute qui me hante parfois. Suis-je conne ? Je veux dire bête, tarte, naïve, sotte, nigaude. Je vous explique. Il m'arrive parfois de réaliser que je ne peux pas me fier à mon premier jugement. Alors que d'habitude, je suis quelqu'un de plutôt rationnel. Mais c'est plus fort que moi. Parfois, je surfe sur le web, je tombe sur une nouvelle insolite. Cette photo floue prouve que le monstre du Loch Ness est un dinosaure fossilisé. Alors ça me surprend. Et je me dis, c'est dingue, il faut que je raconte ça à tout le monde le plus vite possible. Et puis, ça me demande quelques minutes, quelques heures parfois, pour me rendre compte que je me suis fait avoir. D'où viennent les failles de mon esprit? Suis-je vraiment conne?
Bah, c'est pas à moi d'en décider, a priori, mais ça me paraît plutôt bon signe de déjà se méfier un petit peu, de regretter de s'être trompé, et puis de réaliser surtout qu'on s'est trompé, et puis de l'accepter, quoi. Donc pour moi, c'est un peu le contraire de la connerie, de montrer ce genre de signe.
Microscience. Un podcast de la RTS.
Bienvenue dans Microscience, le podcast qui transforme nos petites conneries du quotidien en grandes réponses scientifiques et sympathiques. Alors évidemment, cet épisode n'est pas uniquement destiné à me flatter, bien au contraire. Avec Sébastien Dieguez, docteur en neurosciences et auteur de nombreux ouvrages, souvent en lien avec la bêtise humaine, nous allons prendre la connerie à bras le corps, la décortiquer, l'apprivoiser. Car vous allez voir, ça peut avoir du bon d'être con et conne. Et peut-être même que je serai un peu moins cruche à la fin de cet épisode. Allez, je me porte volontaire, à votre place, et je suis d'accord qu'on étudie ma connerie. Dois-je croire tout ce que je vois? Dois-je faire confiance au risque de me faire rouler? Ou dois-je me méfier de tout, tout le temps? Mais avant cela, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi, lorsque je vois une information complètement improbable, le Yeti se cache dans un bateau à voile qui fait le tour du monde? Eh ben, mon cerveau pétille.
C'est possible que quelque chose qui nous surprend, quelque chose qui est inattendu, quelque chose qu'on savait pas. Quand on apprend quelque chose, bah, on a tendance à penser que bah tiens, ça a l'air intéressant, quoi. Ça... Et si c'est intéressant, c'est que c'est potentiellement important. Donc quand on apprend quelque chose, comme typiquement par exemple comme les rumeurs, quoi, on a envie de le raconter à quelqu'un d'autre. Il y a à la fois un truc satisfaisant pour le soi, pour soi-même, puis aussi un truc valorisant socialement. On a appris quelque chose, on a envie de montrer aux autres qu'on l'a appris. Et donc c'est pas pour moi un signe de connerie de temps en temps de tomber dans le panneau ou de s'accrocher à une idée qui finalement n'est pas si importante que ça. Je pense que c'est un peu notre lot commun, quoi. Puis qu'on fait tous preuve de certaines formes de bêtises ou de conneries chaque semaine.
Bon, il faut quand même que je vous dise. Au milieu de mes petites conneries hebdomadaires, j'ai quand même fait quelques recherches. Et en fait, nous sommes toutes et tous un peu irrationnels. Si, si. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous voyez une masse sombre par terre dans votre chambre et vous sursautez en pensant que c'est une mygale, alors que c'est une chaussette qui traîne. Notre cerveau pense voir une horrible bestiole exotique complètement hors contexte. Si c'est pas con, ça. Et c'est surtout une erreur d'interprétation. C'est un biais cognitif. On en a des tas, des biais cognitifs. Visuels, auditifs, olfactifs. Notre cerveau a tendance à classer les informations rapidement. Alors ça peut être super utile, hein, pour reconnaître un tigre aux dents de sabre, par exemple. Mais parfois, face à certaines informations que l'on gobe, ça nous rend naïfs et naïfs à un point déconcertant.
Alors là, on entre dans un domaine qui est intéressant pour la théorie et la recherche en psychologie, mais pas seulement aussi en anthropologie, en sociologie. C'est comment circule l'information et quel genre d'être on est fondamentalement. Est-ce qu'on gobe tout ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on est plutôt naïf? Est-ce qu'on est crédule par nature? Et il y a des gens, des philosophes, qui ont postulé que oui, il y a quelque chose en nous qui est fondamentalement du registre de la naïveté et de la crédulité.
Alors oui, en effet, si on me dit qu'il y a le feu, c'est tout à mon avantage de sauver ma peau, même s'il n'y a pas le feu.
Donc, dans un premier temps, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on saisit autour de nous est considéré comme vrai. Peut-être que le cerveau fonctionne comme ça. Du reste, c'est un peu la seule manière pour un enfant d'apprendre, d'évoluer. Un enfant, il est obligé de gober tout ce que les adultes lui disent. Il a pas les ressources pour se défendre contre ça, et ça va l'aider de savoir qu'il faut pas mettre les doigts dans la prise, etc. quoi. Il va le croire spontanément. Donc c'est une bonne chose, en fait, d'être crédule souvent, parce que c'est important de considérer que ce qu'on nous dit est potentiellement vrai, au moins.
Par ailleurs, ça coûte moins d'énergie à notre cerveau de considérer ce que l'on perçoit comme vrai. Mais être crédule, c'est aussi une faiblesse.
C'est facile à exploiter. Une fois qu'on a compris que les gens étaient naturellement bons et naturellement crédules, évidemment, après, on peut les rouler, on peut les arnaquer. Donc, probablement que l'évolution, la nature, nous a aussi donné des mécanismes de vigilance qui nous permettent de nous protéger contre, justement, le risque de manipulation et de tromperie. Bon, puis là, il n'y a pas de miracle. Comment on fait pour savoir si on est en train de nous arnaquer ou de nous rouler? Faut se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Est-ce que ça tient debout? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour nous, qu'on a déjà entendu ailleurs, qui a une logique, et puis aussi à la source du message. Est-ce que la personne qui me transmet cette information, de quoi elle a l'air? Est-ce qu'elle a l'air fiable? Est-ce qu'elle a bonne réputation? Est-ce que dans le passé, elle m'a déjà raconté des bobards? Est-ce que dans le passé, j'ai déjà pu me fier à ce qu'elle m'a dit, puis ça m'a bien aidé, etc. Donc, on va se focaliser sur le message en tant que tel, et sur la source du message, puis rien que ça, ça donne déjà des informations assez utiles. Après, on peut se tromper, on peut rejeter un message important et on peut accepter un message nuisible. La fois d'après, on fera plus attention, idéalement.
Plus attention. Mais l'expert, comment je sais, moi, si c'est un expert en chaussettes ou en migales?
Alors là, il faut faire attention parce qu'on rentre dans un domaine qui est plus tellement celui de la connerie, de la bêtise à proprement parler. Si vous faites roulé par quelqu'un qui se fait passer pour un expert, qui vous fait croire qu'il a des diplômes, une carrière en béton, des tonnes de publications, une intelligence supérieure, qui se fait passer en plus pour quelqu'un de bienveillant. Putain, vous avez affaire à une sorte de gourou. Et j'ai envie de dire, c'est lui le con.
Oui, mais c'est un peu facile quand même. C'est pas moi la conne, c'est l'autre, parce qu'on m'a dit que c'était un expert. Faut quand même que je fasse attention de mon côté. Du coup, c'est plus simple de ne plus croire personne. Et hop, au moins je serai moins conne. Ça, c'est un bon plan.
La tendance actuelle est effectivement d'encourager les gens à faire preuve d'esprit critique, à être méfiant, à être vigilant, ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Et on nous donne des trucs et des astuces pour ça, aller chercher la source, aller vérifier, aller comparer. Bon, je trouve que c'est très bien. On a dit, on a des compétences pour ça, on sait faire preuve de vigilance. J'ai plutôt envie de prendre un peu le contre-pied de ça, puis il me semble qu'on, c'est plutôt l'inverse qu'on devrait faire plus souvent, quoi. C'est-à-dire avoir un peu plus confiance. Et la confiance, elle est risquée parce que des fois, vous la mettez entre les mains des mauvaises personnes. Ok, vous avez eu tort de faire confiance à cette personne qui vous a manipulé ou qui vous a trompé. Maintenant, vous le savez. Tandis que si vous faites l'inverse, si vous faites preuve d'esprit critique à longueur de journée pour tout, vous allez peut-être éviter de vous faire rouler, mais vous allez éviter d'apprendre des choses importantes, véridiques aussi. Vous pouvez pas passer la journée à être sur vos gardes. C'est très fatigant, c'est épuisant, ça met tout le monde sur les dents, vous devenez irritable. Puis surtout, si vous faites pas confiance aux gens, vous allez les aliéner. Parce que les gens, ils aiment pas qu'on remette en question leur savoir et leurs paroles. Donc si en permanence, vous dites à vos amis « Ouais, mais ça, je vais vérifier. Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ?» ou comme ça, vos amis, à la longue, ils vont plus tellement vous donner des informations, quoi. Parce que vous serez un peu con de réagir comme ça, puis de toujours tout remettre en question.
En fait, je me rends compte que tout est une question de dosage. Et oser doser sa confiance. Finalement, il faut éviter les extrêmes. Croire tout ou ne rien croire.
Je pense que les deux extrêmes sont pas équivalents. C'est-à-dire qu'il y a la figure de l'imbécile ou du gentil idiot ou de l'idiot du village, qui est quelqu'un qui gobe absolument tout ce qu'on lui dit. On lui dit, tiens, il y a une licorne près de la rivière, va voir.
Où ça? Où ça? Quelle rivière?
Puis il n'y avait pas de licorne. Puis... Bon, ce personnage-là, qui est classique dans la fiction, c'est un peu le con aimable, le bon con, quoi. Cette figure-là, premièrement, elle n'est pas très dangereuse, elle est plutôt sympathique. Surtout, je pense qu'elle n'existe pas, quoi. Il n'y a pas vraiment des gens crédules à ce point-là. Les gens ne gobent pas tout ce qu'on leur dit. Les gens gobent ce qui leur convient, ce qui les arrange, ce qui leur fait plaisir. Si je vous dis des mensonges sur Barack Obama, par exemple, vous aurez tendance à les croire si vous aimez pas Barack Obama, quoi. Si vous êtes fan de Barack Obama, vous vous méfierez. Donc les gens sont crédules pour les choses qui les arrangent, c'est-à-dire les choses en lesquelles ils croient déjà.
Donc en fait, on construit nos connaissances sur la base de ce qui nous arrange.
Ça, c'est en partie le fonctionnement du biais de confirmation, qui est tout simplement le fait d'accepter les choses qui vont déjà dans le sens de ce qui nous arrange et de ce qui nous convient, et d'ignorer ou d'oublier les choses qui viennent remettre en question notre vision du monde. Vous pouvez pas passer non plus la journée à jouer à l'avocat du diable et à vous contredire vous-même en permanence. Si vous faites ça vraiment au jour le jour, sérieusement, vous aurez de la peine à avancer ou à développer quoi que ce soit, parce que vous serez constamment méfiant à l'égard de vous-même. Je pense pas que c'est une posture souhaitable ou tenable, en tout cas sur le long terme. Donc le bon con qui gobe tout, c'est une figure un peu mythique, quoi, qui n'existe pas.
Oui, mais l'individu qui ne croit jamais rien, il existe.
Il est peut-être dominant aujourd'hui, il y en a beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un qui est valorisé parce qu'on croit que quelqu'un qui a autant confiance en lui, il doit être compétent, il doit savoir de quoi il parle, il doit savoir ce qu'il fait. Et donc on met à des postes importants et prestigieux des gens qui sont en fait des cons de ce genre, parce qu'ils inspirent confiance du fait de leur arrogance, qui est le produit de leur connerie en réalité, de leur narcissisme. Donc c'est ça le danger aujourd'hui, c'est celui qui croit tout savoir et qui se rend pas compte de son incompétence et de sa nullité.
Et là, il me vient un plan machiavélique. Je pourrais me faire passer pour une experte en tout et finalement embrasser la connerie dans sa totalité.
On pourrait penser que y a rien de plus facile que d'être con, quoi. Il suffit de se laisser aller puis de dire n'importe quoi. Alors qu'en réalité, être intelligent est censé demander beaucoup d'efforts, comme ça. Mais je pense, à l'inverse, que en fait, ça demande vraiment beaucoup d'efforts d'être con. Parce que le con, généralement, veut pas passer pour un con. Il veut éviter d'être discrédité en tant que con. Ça va lui demander beaucoup d'efforts de dissimuler sa connerie. Déjà, de se la dissimuler à lui-même. Toujours ce phénomène d'auto-aveuglement où le con, ordinairement, ne sait pas qu'il est con. Il tombe des nues quand tu lui dis « Mais c'est con ce que tu dis là, ou t'es vraiment con. » Il ne comprend pas, quoi. Il n'est pas en mesure de comprendre sa connerie du fait qu'il est con. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Mais ensuite, il y a aussi ce problème que l'auto-aveuglement va frapper aussi quantité d'autres gens. Donc le temps que tout le monde s'en aperçoive, il y aura des dégâts, quoi.
Non, je vais laisser tomber. Ça me fatigue d'avance. C'était con de vouloir être con. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait avoir et que vous avez été con ou con? Écrivez-moi à microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et avec un S. Mais d'ailleurs, comment définir plus précisément ce que c'est d'être con ou con? La connerie, c'est le contraire de l'intelligence?
En réalité, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des gens qui sont très peu intelligents puis qui le regrettent. Peut-être qu'ils veulent s'améliorer. Ça ressemble pas tellement à de la connerie, c'est plutôt quelque chose d'encourageant. Alors qu'à l'inverse, on a des gens qui sont très intelligents, on peut même mesurer leur intelligence, ils ont un super QI, mais on se rend compte assez facilement qu'en fait, c'est vraiment des cons, dans tout un tas de circonstances.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis déjà un peu rassurée que la connerie ne soit pas le contraire de l'intelligence. Parce qu'à ce niveau-là, je suis plutôt dans la moyenne.
Ce que pensent certains chercheurs, c'est que le contraire de la connerie, ce serait plutôt quelque chose qui ressemble à la sagesse. La sagesse, c'est pas nécessairement l'intelligence. Typiquement, quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est capable de réfréner ses pulsions. C'est quelqu'un qui aura la hauteur nécessaire pour envisager les différents enjeux d'un problème ou d'un conflit, typiquement de façon détachée. Ça, ce serait quelque chose comme ça, la sagesse, la capacité de se détacher quelques instants de soi-même pour se contempler un peu d'un regard extérieur et neutre.
Détachons-nous un instant de nous-mêmes et portons un regard neutre sur ce que nous sommes. Car c'est bien une histoire de recul sur soi et d'admettre finalement l'étendue de nos connaissances et de notre ignorance. Donc le con, la conne, manque de sagesse et ignore son ignorance. Il faut au fond parfois admettre que l'on est bête pour l'être un peu moins.
Un con, c'est quelqu'un qui prend pas sur lui la responsabilité de s'améliorer et d'en savoir plus. Le con semble très collé à lui-même, en quelque sorte. Donc, il a de la peine à se détacher de lui-même. Et donc, c'est certaine forme d'égotisme ou de narcissisme. Le con se complaît de ce qu'il est déjà et se satisfait de son état actuel qui lui paraît optimal. Et il est incapable de réaliser que d'autres gens, en tout cas sur certains points précis, sont peut-être moins cons qu'eux, ou que la parole de quelqu'un d'autre a plus d'importance que la leur. Donc, un des problèmes avec la connerie, ou surtout la connerie contemporaine, c'est de se prendre pour l'expert de soi-même, et dans le fond, de prétendre en savoir plus que les gens qui ont travaillé toute leur vie sur tel ou tel sujet, sur les vaccins, sur la Révolution française, sur les peupliers, sur les baleines bleues, ou tout ce que vous voulez. Le con, il n'a pas de problème. Lui, c'est le spécialiste de tout, qui le place dans une position de supériorité et d'arrogance, quoi, finalement. C'est pour ça qu'il y a une composante éthique à la connerie, c'est que le con se croit meilleur que vous.
Alors, ça fait peur, mais nous sommes un peu tous et toutes cons et connes par moment. Ce qui m'intrigue toutefois, c'est comment la connerie, la bêtise, la sottise, la niaiserie est arrivée dans nos civilisations.
Je ne sais pas qui était le patient zéro de la connerie. Mais non, je pense que c'est quelque chose qui a dû toujours exister. C'est-à-dire que dans une espèce sociale comme l'être humain, il y a une nécessité de répartition des tâches. Il y a ce qu'on appelle la division du labeur épistémique. Il n'y a pas tout le monde qui peut tout savoir. Donc il y a des gens qui vont s'occuper de savoir quelles plantes sont bonnes pour guérir ou pour manger. Il y a d'autres qui vont surveiller qu'on ne va pas se faire attaquer par les ennemis. Peut-être que ce type-là va être au-dessus d'une colline et il va passer la journée à voir si les ennemis attaquent ou non. Donc si l'expert en surveillance des ennemis nous dit on est attaqué en ce moment, il faut lui faire confiance parce que c'est à lui qu'on a délégué ce job-là. C'est lui l'expert pour ça et il a développé des compétences pour le faire. Et donc, on va le prendre au sérieux et l'écouter. Il y aura toujours quelqu'un pour dire non, moi je m'en fous, je fais pas confiance, pour qui il se prend celui-là, moi aussi je suis expert, et moi j'affirme que les ennemis ne nous attaquent pas, on peut rester peinard, il n'y a pas de problème, je continue à pêcher, etc. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour remettre en question la parole des autres parce qu'il se figure savoir mieux ou savoir plus.
Donc, les cons et les connes ont toujours existé. Je me demande quand même à quoi ressemblerait un monde sans cons et sans connes.
On pourrait essayer de développer une sorte de modèle de simulation artificielle d'une société où personne ne ferait jamais d'erreur, où tout le monde serait toujours hyper bien calibré par rapport à la confiance qu'il doit accorder aux informations. Je pense que si on y réfléchit, ce serait pas souhaitable non plus parce que c'est un monde où le progrès serait pas possible en fait. Parce que grâce aux cons, de temps en temps, on a une nouveauté, qu'il y a un truc qui émerge comme ça, auquel personne n'avait pensé, parce que c'est une grosse connerie, a priori. Mais qu'en fait, si on la tourne du bon côté, si on la prend de la bonne manière, peut-être qu'il y a le germe d'une innovation là-dedans, d'une idée créatrice, créative. Et donc, dans la connerie, je pense qu'il y a une bonne dose aussi d'invention, de créativité, de capacité de créer des mondes alternatifs et fictifs. Donc, je pense qu'il y a une utilité, en tout cas une utilité sociale à la connerie. Généralement, la connerie est relativement improductive, c'est bien ça le problème, mais de temps en temps il faut un peu des idées un peu iconoclastes, un peu débiles, un peu à côté de la plaque, pour en fait être capable de générer quelque chose d'intéressant et de nouveau.
Oui, mais les grands scientifiques, ceux qui font des découvertes extraordinaires, ils sont pas si cons que ça. Quand Galilée dit que la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire, il se base sur des observations et ça ne sort pas de nulle part. Mais si le reste du monde, des cons et des connes, ne comprend pas les grandes découvertes, ce n'est pas un peu vain ?
En fait, c'est possible qu'il y ait un con dans Galilée, en fait, parce que justement, je lisais son bouquin récemment, c'est Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, quelque chose comme ça. Et un des personnages, c'est Simplicio, le neuneux, qui est là justement pour porter la contradiction et forcer les autres intervenants à argumenter correctement. Donc, en fait, il n'y a rien de mieux pour s'assurer qu'on maîtrise vraiment une connaissance que de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Donc, découvrir cet imbécile en soi auquel on doit tout expliquer. Souvent, on croit savoir quelque chose, mais quand quelqu'un nous demande de l'expliquer, on s'aperçoit qu'en fait, on ne sait pas vraiment. Et donc, ce crétin en soi, il faut apprendre à le cultiver, il faut apprendre à le découvrir. Il faut sans relâche chercher à lui expliquer et pas se figurer qu'on sait quelque chose, parce que ça, c'est un des premiers signes de la connerie, c'est quand on croit avoir compris quelque chose, qu'en fait, soit on ne l'a pas compris du tout, ou pire, on l'a compris de travers.
En fait, pour être moins sot, pour être moins sotte, il faut parfois l'être. Et grâce à cet épisode, je ne serai sans doute pas tarte moins souvent, mais peut-être moins longtemps. Il rattrape en tout cas mes plus grosses bourdes. Grégoire Moll, coproducteur qui ne conteste rien mais questionne souvent. Et Jérôme Nussbaum qui rattrape joliment certaines de mes sottises par un doux habillage musical.
Pourquoi je n'ai que deux bras ? Que se passe-t-il quand je dors ? Le zèbre, est-il blond avec des rayures noires ou noir avec des rayures blanches ? Les virus sont-ils utiles ? Dois-je me remettre au sport ? Qui m'enverra la prochaine question de microscience ?
Cet épisode vous semble peut-être digne d'être partagé sur vos réseaux sociaux préférés. Abonnez-vous pour accéder à une connaissance de première main sur Spotify, Google Podcast ou Play RTS. Mais avant de partir, maintenant qu'on a toutes et tous bien compris comment notre esprit défaille, comment être sûr que notre intervenant du jour ne nous a pas roulé dans la farine ?
Ah mais j'ai fait que ça depuis le début. D'ailleurs, je suis toujours étonné des gens qui me donnent la parole pour raconter des choses. Généralement, on me tend un micro, moi je réponds, mais ça me surprend toujours.